Bonjour à tous. Alors, écoutez, on reçoit toujours de la part des médecins pas mal de mails. Les infirmières aussi nous envoient des choses. Donc, DGS urgent, comme d'habitude, lundi 15 mars à 20h55. Hein, puisque tout le monde sait qu'à 20h55, il y a énormément de médecins hein, dans les cabinets. Mesdames, Messieurs, à la suite d'une survenue de nouveaux cas d'événements thrombo-embolytiques et de troubles de la coagulation dans plusieurs pays européens, l'Agence nationale de sécurité du médicament a recommandé de suspendre temporairement et à titre préventif l'utilisation du VAC AZ. Oui, parce que c'est dans les autres pays. Chez nous, il n'y a rien. Hein. Ah ben, c'est que dans les autres, mais c'est chez nous, il n'y a rien. Ah non, 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 ils t'en parleront pas. L'administration du VAC AZ a donc été suspendue dès ce soir, lundi 15 mars. Ces événements sont en cours d'examen par l'Agence européenne des médicaments qui devait rendre ses conclusions dans le courant de la semaine. De premiers éléments scientifiques sont partagés dès demain par le comité d'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance, la PRAC. Comme précise l'ANSM, il convient de noter que rien n'indique à ce stade que les événements soient en lien avec la VAC, évidemment. Jamais, jamais. Il n'y a aucun danger à se faire VAC, ça a toujours été. Il demeure par ailleurs très rare, évidemment. C'est pour ça qu'il retire en Europe. Très peu de cas ont été signalés dans notre pays. Ben oui, ben oui. Aucun décès n'a été constaté. Ben non, évidemment. Dans le cadre de la surveillance renforcée mise en place depuis le début de la vague, il s'agit bien de suspension temporaire et de précaution. Évidemment, on sait comment ils nous aiment et comment ils veulent prendre leurs propres précautions pour notre santé. Hein, bien sûr, toujours hein, pour notre santé. Une information complémentaire sera diffusée le plus rapidement possible en fonction des résultats de l'évaluation du PRAC, donc ce comité pour évaluation des risques en matière de pharmacovigilance, européenne. Hein. Ah ben, on n'a plus personne en France. Non, on n'a plus de... Non, c'est l'Europe qui nous dirige maintenant. Hein. C'est le chef de la France, en fait, maintenant. Hein, bébé. Parce que tous nos guignols sur les chaînes TV, partout, sont juste des marionnettes bien payées. On leur dit à droite, à gauche, à Macarena, en haut, en bas, à droite, à gauche. Alors, on dit aux médecins, donc vous retrouverez le présent message sur le site du ministère. Nous vous remercions de votre engagement. Donc, toujours la Task Force VAC qui signe par Laetitia Biffet et Salomo qui reste, lui, juste et seulement directeur général de la santé. Mais apparemment, il ne fait pas partie de la Task Force. Non, non, c'est deux entités bien distinctes. Hein. Deuxième message, le 15 mars à 21h36 cette fois. Alors, mesdames, messieurs, le cluster nosocomial d'infection à SARS-CoV-2 est suivi depuis plusieurs semaines par l'ARS Bretagne. C'est un cluster nosocomial cette fois. Avant, on avait des maladies nosocomiales et maintenant, c'est les SARS nosocomiaux. Je te jure, il faut suivre hein, parce que ça va à une vitesse vertigineuse. Écoutez bien parce que c'est très, très important. Donc, en Bretagne, avec des cas détectés en milieu communautaire, suite à la détection de plusieurs cas rattachés à ce cluster avec une discordance répétée entre les signes cliniques évocateurs et les résultats négatifs des PCR réalisés sur prélèvement nasopharyngé. Excusez-moi, je suis obligée de tout décortiquer parce qu'on est censuré. Les investigations épidémiologiques et virologiques ont été menées par Santé publique France et le CNR virus des infections respiratoires. L'analyse réalisée par le CNR de Pasteur, l'imposteur, ça c'est moi qui le dis, met en évidence un nouveau variant du clade 20C, qui est porteur de 9 mutations dans la région codant pour la protéine S, mais également dans d'autres régions virales. Ouais. Ah bah oui, Dieu, c'est comme ça. Ça ne s'arrêtera jamais. Nous trouverons toujours des variants du variant C, B, D, les 26 lettres de l'alphabet avec des numéros. Enfin, il faut qu'on y croie, surtout les moujons. Une évaluation est en cours afin d'apprécier l'impact possible de ces modifications génétiques sur un défaut de reconnaissance par des tests virologiques conduisant à un sous-diagnostic et susceptible d'interférer avec la stratégie de dépistage et de contact tracing actuellement en vigueur. Des investigations complémentaires sont également en cours afin d'évaluer l'impact des mutations sur la transmissibilité, la sévérité et le risque éventuel d'échappement immunitaire de ce nouveau variant. Il ne faudrait pas qu'il s'échappe. Il ne manquerait plus qu'il s'échappe. À ce stade, et en l'absence de données à ce jour, parce qu'on te dit tout ça, mais il n'a pas de données, hein, attention, en l'absence de données à ce jour, concernant une éventuelle transmissibilité, il faut que tu aies peur quand même que ça soit transmissible, hein, mais on ne sait pas du tout, mais on te fait peur. accrue de ce virus par rapport aux souches 2020 donc, hein, et une éventuelle plus grande fréquence des formes sévères. L'analyse de risque réalisée par Santé publique France de Centre national de référence virus respiratoire classe cette souche comme variant under investigation. Ouais, variant à suivre, hein. Ah, faut suivre. Ça va très très vite, hein. Faut suivre les gars parce que ça va aller très très vite. Dans ce contexte, une définition particulière de cas, adaptée à la situation et relative à une zone géographique incluant une partie des départements Côte d'Armor 22, Finistère 29, la Bretagne, a été élaborée par Santé publique. Allez les chouans, on va pas se révolter les chouans. C'est vous qui êtes visé là. Ah, vous avez eu là l'audace de créer un variant. Ah, c'est les seuls qui luttent un peu. Vous savez, c'est la Bretagne, on les connaît depuis toujours. Hein. Ils ont ça en eux, en fait, les chouans. Hein. Voilà, donc les chouans, vous nous avez créé un variant breton. Incroyable, vous êtes trop forts. Hein. Les pauvres, on est tous dans le même sac, les gars, je vous le dis, on est tous dans le même panier. De crabe. On est tombé dans le panier de crabe. Compte tenu de la possible mise en état de diagnostic en défaut, excusez-moi, compte tenu de la possible mise en défaut du diagnostic biologique sur les prélèvements nasopharyngés, une conduite à tenir spécifique doit être mise en œuvre. Oui, pour les Bretons. Hein. Alors, vous trouverez deux fiches techniques, conduite à tenir, hein, précisant les examens à visée diagnostique à réaliser devant un cas possible ou probable, sans qu'on sache si c'est contaminant. Hein. On ne sait pas. Non, c'est ce qu'on vient de dire au-dessus. Qui répond à une définition de cas, ainsi les circuits du prélèvement adressés au CNRS virus des infections respiratoires. Conduite à tenir autour de cas possibles, probables et confirmés. Possibles, probables et confirmés. Tous les cas correspondant à la définition de cas possibles, probables ou confirmés. Je ne sais pas comment les médecins ils s'y retrouvent. Je te jure, déjà qu'ils ont du mal Ils ont du mal, hein, déjà quand même. Mais je ne sais pas comment ils s'y retrouvent. Je te promets que je ne sais pas. C'est effarant. Alors... Donc, je continue ma lecture. Tous les cas répondant à la définition des cas possibles, probables ou confirmés doivent faire l'objet d'un isolement strict d'une durée de 10 jours à compter de la date du début des signes pour les patients symptomatiques ou à compter de la date des prélèvements pour les cas asymptomatiques. Oui, parce que là, encore une fois, on a des gens asymptomatiques d'un virus qu'on ne connaît pas, d'un variant qu'on ne connaît pas non plus. Ah non, c'est fort, je te jure, c'est fort. C'est la guerre des étoiles. Hein. Pour les personnes contact, les recommandations en termes de tests immédiats à 7 jours à la durée de quarantaine ne sont pas modifiées. La durée reste de 7 jours à la dernière exposition. Tout va bien. Contact tracing sera initié à la détection d'un cas possible. C'est-à-dire, voilà, dès que tu as un cas, il doit être tracé tout de suite selon les modalités habituelles. Pour les cas probables et les confirmés, seront également réalisées une information de contact de seconde génération. On a maintenant une seconde génération de tracing. Par les contacts de la première génération, contact warning. Hein, ainsi qu'une investigation en amont et en aval des cas à la recherche de situations à risque de transmission pour la recherche de personnes co-exposées. Alors là, c'est du rétro-tracing par le niveau 3 ARS-SPF. Ça va, tu suis, tu... Ça va ? Je t'ai pas perdu ? Hein ? Ah, c'est compliqué. Hein. Alors, on continue. Renseignement de l'outil contact. COVID. Dans le contexte imposé par ce nouveau variant décidé du clade 20C, une attention toute particulière doit être portée sur la déclaration des cas, pas de leur santé, mais il faut les déclarer. Contact, COVID. À ce titre, dans l'attente d'une évolution de l'outil, les professionnels de ville et des établissements de santé devront appliquer la consigne suivante. Les cas possibles seront créés dans les contacts COVID. En utilisant le champ diagnostic probable, symptômes plus scanner, et en indiquant manuellement dans le champ nature de variants, qu'on ne connaît pas toujours, hein, l'information strictement saisie à l'identique, cas possible, 20C, ce qui permettra de les identifier comme cas possible. Ah, je te jure que c'est noté, hein, tout ce que je te lis c'est noté, y compris dans les extractions utilisées par Santé publique France. Ah, on continue, les cas probables pourront être enregistrés en utilisant le champ diagnostic ci-dessus, probable, symptômes plus scanner, et en indiquant dans le champ nature du variant l'information cas probable, cette fois, 20C clinique. C'est pas la même chose, impossible, probable, pas du tout pareil. Hein. Du tout. Hein. Sortez vos dictionnaires. Hein. Ah oui, sortez, j'espère qu'ils ont autre chose que le Vidal, parce qu'ils vont pas y arriver. C'est-à-dire à présent les lésions visibles et tomodensitométrie thoracique évocatrice de COVID-19, ou cas probable 20C épidémiologique, c'est-à-dire disposant d'un contact à risque avec un autre cas possible, probable ou confirmé, d'infection par ce variant du clade 20C. Ou, attends, parce qu'il y a beaucoup de cas quand même, hein, appartenant à un regroupement de ces cas possibles, probables ou confirmés. Ah, faut bac plus 30. Hein. Ah, ben là, faut bac plus 30. Concernant les cas confirmés, la question se pose de pouvoir tracer a posteriori la présence du variant dérivé du clade 20C, parce qu'on a un dérivé en plus. Ah, on est dans une panade épouvantable. Hein. On a un dérivé en plus. Attends, j'en perds mes lignes. Hein, j'en perds mes lignes. Alors, attends, je reprends. Je reprends. Attends, t'énerve pas, je reprends. Concernant un cas confirmé, la question se pose de pouvoir tracer a posteriori donc la présence du variant dérivé du clade 20C à l'issue du séquençage. Cette information pourra être indiquée dans le champ diagnostique en modifiant probable, symptôme plus scanner, par résultat RT-PCR confirmé positif. Et en indiquant bien sûr la nature du variant. Variant 20C confirmé par séquençage. Ah ben, ils peuvent tout trouver, je te jure, je pense même qu'ils peuvent avoir ton compte en banque et tout. Hein. Ah, je pense que maintenant, avec le PCR, on a tout, tout, absolument tout. Ce que tu regardes à la télé, ce que tu manges, ce que tu ne manges pas. Tout. Ah, tout, ça fait tout. Bientôt, ça fera le ménage. D'ailleurs, je pense que ça va faire le ménage, vous allez voir. Je continue. Vous retrouverez les présents messages, bien sûr, sur le site du ministère. Nous vous remercions sincèrement pour votre engagement, votre vigilance hein, dans l'application des consignes citées plus haut. Quand vous les aurez compris, ils auraient pu mettre entre parenthèses, franchement, je te jure, parce que je ne sais pas s'ils comprennent quelque chose. La participation de tous sera essentielle pour assurer la bonne compréhension de la situation. Ils sont conscients qu'on ne peut pas comprendre quand même, tu vois. Et là, c'est Jérôme qui signe, hein, voilà. Alors, on en a un autre qui arrive, hein. Attends, parce que j'en ai plusieurs, j'en ai trois. Hein. Alors, DGS urgent, toujours, c'est urgent, hein. 16 mars, cette fois 16h28, saisine des vaccinations, des vaccins COVID, des vacs, pardon. Nous avons constaté dans un certain nombre de régions que les vacs réalisées dans l'outil VAC COVID sont renseignées avec un retard qui s'élève parfois à plusieurs semaines. Ah, pas ça, ah, pas du tout ça. Il est rappelé, la très grande importance d'une saisie en temps réel, dans la journée. Qu'est-ce que vous foutez ? On ne peut plus tracer les gens, là. Des vacs dans l'outil. Alors, cette saisie constitue en effet un impératif de santé publique. C'est toujours un impératif, hein, toujours. Des renseignements fournis dans VAC COVID sont nécessaires en cas d'effet indésirable lié à cette vac. Il y en a tellement, en plus, il faut quand même... Attends, on fera peut-être les noter quand même. Une condition essentielle du pilotage de la campagne. C'est essentiel. Les gens doivent être tracés. C'est essentiel, comprenez-le. Ah, notamment pour l'anticipation du besoin en deuxième dose. Eh bien oui, il faut qu'on les commande, déjà qu'on ne les reçoit pas quand on les commande. Si en plus, on ne les commande pas parce qu'on n'a pas su combien il y en avait qui étaient vagues et puis que c'est un bazar sans nom. Faites les choses correctement, les gars. Hein, qui pourrait être sous-évalué en cas d'erreur de saisie ou de saisie trop tardive. Ça va être de la faute des médecins. Ah, je te jure, ça va être de la faute des médecins. Les saisies ultérieures des VAC dans VAC COVID doivent être réservées aux situations exceptionnelles. Attention, là, il ne faut pas faire du n'importe quoi. Hein. Il est demandé à tous les personnels impliqués dans la campagne de vaccination de bien vouloir intégrer sans délai les données passées qui n'auraient pas encore été saisies, puis de renseigner les VAC en temps réel dans la journée à l'avenir. Peut-être falloir obéir un peu, les gars. Il est demandé aux ARS, aux établissements hospitaliers pivots qui fournissent les centres de vagues de bien vouloir diffuser ce message à l'ensemble des responsables de centres et les personnels impliqués dans la vague. Bon, ça, pareil, tu retrouves tout sur le ministère en vous remerciant vivement de votre mobilisation. Donc là, on retrouve la Laetitia, hein, la task force VAC, avec Jérôme, toujours mon petit Jérôme qui est présent. Alors, attends, parce qu'il faut quand même qu'on récapitule les choses, là, qu'on récapitule aussi, parce que c'est quand même beaucoup, hein, ça fait beaucoup. Alors, on n'a pas de vagues, hein, il faut qu'on en soit conscient. Et en plus, le peu de vagues qu'on a actuellement ne sont pas déclarées. Je ne sais pas quel chiffre on nous montre, je ne sais pas, je te le demande, je ne sais pas d'où viennent les chiffres, hein. Alors, on a d'autres infos. Ah, maintenant, j'appelle ça maintenant les infos. Hein. Une infos, plus grave encore, qu'on a reçue de Belgique. D'accord? C'est mode Erna. Là commencent les nouveaux essais de VAC, hein, COVID, sur les enfants. Oui, sur les enfants, bien sûr. Les nourrissons. Oui, bien sûr, normal, tout va jusque-là, tout est normal. Les plus jeunes auront 6 mois. C'est des nouvelles du premier fabricant de vaccins américain qui teste sur les bébés. Ils testent, oui. Et ils ont lancé des essais sur les enfants à partir du mardi 16 mars 2021. Mais ça va, sinon ça va. C'est ABC News qui rapporte cette nouvelle. Alors, c'est cette société mode Nera, américaine, qui est devenue la première société d'ailleurs à le faire. Les détails de ça, c'est qu'elle a annoncé mardi qu'elle avait entamé son processus de test sur des enfants de 6 mois à 12 ans, je crois, aux États-Unis, au Canada. D'ailleurs, bonjour les Canadiens, vous m'envoyez toujours plein d'infos, merci à vous, j'en profite. Et alors, le docteur Jacqueline Miller, qui est un pédiatre renommé, responsable du domaine thérapeutique de la Société pour les maladies affectueuses, a déclaré à Good Morning America que la première partie est l'endroit où nous trouverons la dose appropriée du VAC. Les enfants ont souvent besoin de doses plus faibles que les adultes et nous voulons nous assurer de trouver la meilleure dose. Oh oui, n'en doutons pas. Elle a également noté que les essais du premier cycle commenceront dans le groupe d'âge de 6 à 11 ans, suivis par des enfants âgés de 2 à 6 ans et enfin de 6 mois à 2 ans. Le docteur Steve Plimpton, chercheur principal de l'étude de mode RNA, a déjà entamé le processus d'inscription des patients pour l'essai. Et nous allons non seulement profiter aux enfants en les faisant vac, mais maintenant nous allons également protéger ceux qui sont autour de ces enfants, les enseignants, les parents, la maison, les grands-parents. Une des parents, Rachel Guthrie, a déclaré qu'elle avait inscrit 2 de ses enfants au process. Et je pense que c'est très important. Oui, je pense. Parce que, alors, je pense que c'est très important car nous sommes exposés à des personnes qui pourraient être immunodéprimées et qui n'ont pas encore eu l'occasion de se faire vax. Quoi d'autre? NPR a rapporté que dans l'étude, des chercheurs donneront 2 injections à 28 jours d'intervalle ou des placebos salins pour d'autres enfants. Les enfants qui le reçoivent recevront une des 3 doses possibles, 25 microgrammes à 100 microgrammes. Soyons fous, soyons dingues. La même dose, je mets une petite barrière parce que sinon je vais pleurer les enfants, je vous le dis. Donc j'essaye de vous faire rire de toutes ces horreurs qu'on nous fait vivre depuis tellement de temps. Donc cette dose a reçu une autorisation d'urgence. Ah ben ils ont des autorisations d'urgence, hein. Alors, ils ont reçu une autorisation pour une utilisation chez l'adulte de la Food and Drug Administration en décembre. Voilà. Alors, Jacqueline, la petite Jacqueline Miller, c'est une pédiatre diplômée de l'université de Northwestern, formée à l'hôpital de Philadelphie. Elle a rejoint Moderna en 2020, en tant que responsable du domaine thérapeutique pour les maladies infectieuses. Voilà, elle est à fond. Je te jure, elle est à fond. C'est quand même un truc de fou. Alors, il faut savoir qui est ce labo. La biotech américaine à l'origine du premier VAC expérimental contre la COVID de Moderna. Je fais exprès de modifier tous les noms, vous l'avez compris. Tout ceci est dirigé par un Français qui s'appelle Stéphane Bancel. Qui s'est spécialisé dans les traitements à base d'ARN. Oui, il aime bien. Et puis cette technologie, du coup, est à l'origine de la fabrication de ce premier VAC. Et il est testé sur un groupe de 45 patients sains aux États. Oui, on teste sur les sains. Hein. S-A-I-N-S. Les autorités appellent tout de même à la prudence. Oui, un petit peu quand même, un petit peu à la prudence, parce qu'il faudrait quand même un an et demi à l'époque. Hein, c'était en 2019. Voilà, Stéphane Bancel, eh bien, lui, il est... Il vaut aujourd'hui, écoutez bien quand même, hein, il est né en 72 à Marseille. Ah, il n'y a pas de hasard quand même. C'est un homme d'affaires milliardaire. Hein, il est milliardaire français. Il a été propulsé président, directeur général et propriétaire à 9% de Moderna Therapeutics, société américaine de biotechnologie. Et en 2020, alors que le cours de l'action augmente à la nouvelle de l'imminence d'essais humains de phase 2 pour son potentiel VAC COVID, ses parts en font un milliardaire en dollars. Le 18 mai, lorsque le cours de l'action atteint 80 dollars, Sa part de 9% atteint, de 9% seulement, hein, 2 milliards 5 de dollars. Ça va pour eux, non? Vous ne trouvez pas? Il fait partie évidemment des Young Global Leaders. Qu'est-ce que ça rapporte, les vagues? Ça soigne pas, mais ça gagne bien. Ah, ça soigne pas. Ça soigne moins, ça gagne moins que les plantes et l'homéopathie. Hey, si je te dis ça, ça gagne pas. Non, donc on l'interdit, on enlève. Et on fait ça, à la place. Sur des bébés aussi, ça gêne pas non plus. Alors, en ce jour du 17 mars 2021, la France retire les militaires déployés. On apprend ça aujourd'hui, hein. C'est pour faire des liens, en fait. C'est pour que vous fassiez des liens avec tout ce que je viens de dire. Parce que les gens, ils n'arrivent pas forcément à faire des liens. Donc, elle retire les militaires déployés dans le cadre de l'opération Sentinelle. Ouais, aujourd'hui. Ben oui, comme par hasard, on n'a plus de menaces terroristes, dis donc. Ben, vague, sûrement, je ne sais pas. Plus de menaces. Et alors, cet article décrit hein, que l'armée de terre se prépare à des conflits plus durs, beaucoup plus durs. Et veut rajouter l'armée de terre avec... que l'armée de terre, avec l'opération Sentinelle, hein, c'était ceux qui luttaient contre le terrorisme hein, en France, a un dispositif depuis quelque temps en place qui est très très réactif, qui est vraiment en capacité de renforcer et d'ajuster les moyens à la demande des gouvernements, du gouvernement. Et ce même article explique que quelques 4000 militaires peuvent être déployés en moins de 48 heures. C'est le général Vincent Guyoni qui le dit. Voilà. Quand vous faites le lien avec le VAC, vous commencez déjà à mettre en place les choses, d'accord? On retire 4000 militaires d'un côté pour les mettre où? Posez-vous la bonne question. Ils vous disent vouloir sauver vos vies, vouloir arrêter, stopper tous les virus, les variants, et que grâce à l'armée, vous gérez la crise Covid. De quoi parle-t-il? Pardon. Les journalistes comparent la crise organiser COVID avec la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine. Il vous prépare. Il vous prépare à accepter l'inacceptable. Ça, on le sait depuis longtemps. Il vous prépare à accepter aussi les militaires dans vos rues pour autre chose que les attentats qui n'existent plus désormais. On n'en a plus besoin, vous avez déjà peur. Et peut-être à circuler dans les centres VAC, INO, à gérer les confinements futurs, peut-être les checkpoints, mais en tout cas certains, la nouvelle crise alimentaire qui s'en vient. Nous l'imposer maison après maison, ce VAC peut-être, qui sait. Je ne sais pas. Mais pour moi, avril risque d'être la chute de notre pays. La chute véritable de toutes les entreprises qui vont fermer, se casser la figure. Un reconfinement s'annonce, l'armée se déplace. Réveillez-vous. Réveillez-vous, on peut encore agir. On peut encore arrêter tout ce massacre. Mais c'est l'heure de se réveiller, c'est plus que l'heure de se réveiller. Si on déplace des militaires, croyez bien que c'est pour les mettre autour de Paris, parce que c'est là que ça commencera. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Et c'est ce qui va se passer. Je l'avais annoncé, je l'avais dit, sortez des villes, faites des stocks. C'est en cours, mes amis, c'est en cours. Pardonnez-moi, j'en perds ma voix. Mais je crois qu'il faut vraiment que vous preniez conscience que ça va bientôt se mettre en place. Et quand ce sera en place, ça va être compliqué. Compliqué. Rejoignez-vous et préparez-vous. Je ne veux pas être alarmiste, ce n'est pas mon but. Je suis juste consciente de ce qui est en train de se passer et de ce qui est en train de se jouer. Et si on vous compare COVID à la guerre d'Algérie, à la guerre d'Indochine, si votre président, parce que moi je n'ai jamais voté, je ne peux pas l'appeler mon président, vous parle de guerre, c'est bien parce que c'est contre nous, leur peuple, et qu'ils n'ont jamais eu envie de vous soigner. Gagner beaucoup d'argent pour faire croire qu'ils le font, oui. Mais ce n'est pas pour notre santé. Courage à tous. À très bientôt.